Bonjour à tous. Je sais pas vous, moi il y a un truc que je trouve super désagréable ici, c'est qu'on est dans une église où quand on fait pas les choses bien, on se fait reprendre. Il y a quelques années de ça, je donnais des enseignements tous les mois au groupe de jeunes. De temps en temps, André me donnait la parole à ce micro pour que j'apporte des enseignements ici. Et pourtant, en discutant avec Michel, en discutant avec Florence, etc., de temps en temps, je leur disais « Ah, je suis embêté, Timothée, il y a ci, il y a ça. » Et ils me disaient « Est-ce que tu lui as appris que Dieu veut ça pour lui? Est-ce que tu as prié avec lui? Est-ce que tu as fait ça avec lui ?» Et ça, c'est super désagréable parce que je me suis aperçu que j'apportais des choses sur la parole de Dieu à l'église et en fin de compte, je ne le faisais pas à la maison. Ce qui pose quand même un problème. Donc ça m'a obligé à me poser des questions. On reçoit de la parole de Dieu, mais qu'est-ce qu'on transmet finalement? Et Dieu nous a tous appelés à enseigner qui il est et à enseigner sa parole. Alors je dis ça comme ça, c'est pas quelque chose que je lance. À chaque fois j'aime bien retourner à la parole. Et j'aime bien retourner souvent au début des choses. C'est vrai, il y a énormément de choses dans le Nouveau Testament. On aime bien citer les épîtres de Paul et tout. Mais en fin de compte, chaque fois quand on regarde, dès la Genèse, il y a énormément de choses qu'on trouve. Et là, dès le début, Dieu crée Adam et il lui enseigne quelque chose. Est-ce que vous vous rappelez la première chose que Dieu enseigne à Adam? Des propositions? La première chose qu'il lui dit, c'est, il lui dit, tu pourras manger de tous les arbres librement, mais tu ne mangeras pas de l'arbre du choix entre le bien et le mal. Parce que si tu en mangeais, tu mourrais certainement. Ça, c'est la première chose qu'il lui dit. Genèse 2,16. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu. C'est ne pas transmettre la parole de Dieu, en fait, c'est un enjeu de vie et de mort. Si on ne transmet pas la parole de Dieu, on laisse la mort gagner du terrain. Et ça, c'est vrai aussi, et surtout dans nos familles. Premièrement, c'est vrai avec les gens autour de nous, c'est vrai avec nos amis, mais c'est vrai dès nos familles. Donc Dieu enseigne ça à Adam. Pourquoi je dis à Adam? Parce qu'en fait, au moment où il lui dit ça, Ève n'est pas encore là. Et en fait, un truc qui m'a intrigué, c'est que c'est marqué nulle part que Dieu le dit aussi à Ève. Pourquoi? Parce que je crois qu'en fait, Dieu transmet quelque chose à Adam, mais il veut que Adam ait le réflexe de l'enseigner à sa compagne, à Ève. Donc ça, c'est la première transmission qui est exigée de l'homme. Et tout de suite après, c'est comme à l'école, on apprend la théorie et tout de suite après, il y a le cas pratique. Ils sont dans le jardin, et ils ont un exercice à faire, ne pas toucher à l'arbre, ne au fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. Donc ça, vous connaissez tous l'histoire. Le cas pratique, ils vont le rater. Ils vont le rater, ils vont être chassés du jardin d'Éden. Et là, Dieu va à nouveau leur dire quelque chose. Il va leur dire, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture. Dieu dit ça à Adam. Et après, ils vont avoir des enfants. Abel et Caïn. D'ailleurs, ça aussi, je me suis posé la question en préparant le message pour aujourd'hui. Comment ça se fait qu'en fait, ils n'ont pas des enfants pendant qu'ils sont dans le jardin d'Éden? Comment ça se fait qu'ils ont des enfants avant? Après, je veux dire. Je ne vous dis pas que c'est la réponse, mais tant qu'ils sont en train de vivre en présence de Dieu, ils sont dans la vie éternelle. À partir du moment où le péché est rentré, ils sont dans la mort. Donc l'enseignement de Dieu, il commence à y avoir urgence de le transmettre à la génération d'après. Accessoirement, on ne sait pas combien de temps il reste au jardin d'Éden. Hein. On a l'impression que ça se passe très vite parce que c'est en quelques lignes, mais dans l'éternité, 100 ans, 1000 ans, c'est juste un instant. On ne sait pas combien de temps il s'est passé avant de tomber. Et c'est pour ça, même quand on passe une vie où vraiment on est fidèle à Dieu, tant qu'on n'est pas arrivé au bout, on ne peut pas dire qu'on a été fidèle. À l'échelle de l'éternité, une vie, c'est rien. Donc ils ont une nouvelle chose à transmettre. Le sol sera maudit à cause de toi et c'est avec peine que tu en tireras la nourriture. Ils ont deux fils. Il y en a un qui va décider d'être éleveur et l'autre qui va décider d'être agriculteur. Caïn, malgré l'avertissement de Dieu à ses parents, il décide de cultiver le sol. Il n'en a rien à cirer. Non, je suis têtu. J'ai décidé de cultiver le sol, même si Dieu il a dit que ça allait être compliqué, moi je veux le faire. Quelque part dans sa démarche, déjà, il refuse de dépendre de Dieu. Il préfère se donner beaucoup de mal, ne compter que sur lui-même. Et finalement, moi, je me rappelle la première fois que j'ai lu la Bible, puisque je ne suis pas né dans une famille chrétienne, la première fois que j'ai lu la Genèse, je me dis, mais c'est pas juste. Caïn, il se donne largement autant de mal que Abel. Et Dieu, il n'honore pas son offrande. Ah, mais le problème, il n'est pas dans l'offrande. Le problème, il est dans le cœur. Au départ, Dieu, en bon père, lui dit, attention, si tu fais ça, tu vas te donner beaucoup de mal. On fiche, je le fais quand même. Vous faites comment quand vous mettez en garde votre enfant? Vous dites, fais pas ça, c'est compliqué, tu vas te donner du mal, tu vas pas y arriver. On fiche, je le ferai quand même. Donc en fait, le problème, il n'était pas dans l'offrande, il était dans le cœur de Caïn. Et quand le Seigneur refuse son offrande, là, il va se mettre à jalouser son frère. Il réalise même pas que le problème, il vient de lui. Il pense qu'il est victime d'une injustice. Alors qu'Abel, lui, il s'est rappelé que ce que Dieu a sacrifié pour couvrir le péché de ses parents, c'était un animal. Et lui, il sacrifie des animaux. Abel, il a eu un cœur attentif à la parole de Dieu depuis le départ. Et on va pas dire qu'élever des animaux, c'est pas du travail. Hein. C'est beaucoup de travail. Mais il accepte de dépendre complètement de la bénédiction de Dieu. Alors Caïn va tuer son frère. C'est moche, le premier meurtre. Et là, je voudrais reprendre le chapitre 4, les versets 9 à 15 dans la Genèse. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il vient de le tuer. Caïn répond, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Évidemment, tout de suite après avoir fait une bêtise, on ment. Et Dieu lui dit, « Qu'est-ce que tu as fait ?» La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Hein ? Vous voyez, il y a une gradation. Au départ, il dit à Adam, le sol sera maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture. Et comme Caïn a persisté, a voulu à tout prix aller par là, maintenant, le sol ne te donnera plus rien, il ne te donnera plus sa richesse. Du coup, puisqu'il ne peut plus être agriculteur, Dieu lui dit, tu seras errant et vagabond sur la terre. Et là, Caïn, qu'est-ce qu'il répond? Oh, pardon Seigneur. Non. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Pourquoi il dit ça? Il est encore persuadé que Dieu est injuste avec lui. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre et je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera. C'est-à-dire, il vient de tuer son frère. Et là, ce qu'il trouve injuste dans son châtiment, c'est le risque d'être tué lui-même. Il dit à Dieu, t'es injuste, je risque de mourir. Ça lui vient même pas l'idée qu'en fait, ce serait la conséquence de ce qu'il a fait. Et que ce serait proportionnel. Donc on voit que le problème de cœur, il subsiste. Même après que Dieu l'ait repris. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Et là, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que Dieu fait ça? J'ai lu des fois dans des romans, dans des livres, dans des articles sur Internet, que c'était la mise à l'isolement, c'était un peu une peine super dure de la part de Dieu. Voilà, non, mourir c'est trop simple, là t'es à tel isolement mon gars, tu vas être obligé d'être vagabond toute ta vie. Une preuve de la dureté de Dieu. Moi je dis que ceux qui ont écrit ça, ils ont le même cœur que Caïn. La réponse, vous la trouvez dans votre Bible. Dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 21. « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois, qu'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, dit l'Éternel, est-ce que le méchant meurt? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Caïn, il a donné la mort. Dieu ne le punit pas par la mort. » Il le laisse vivre pour lui donner une chance de se repentir. Parce que là, au moment où ça se passe, on voit bien qu'il n'y a aucun repentir. Il dit même pas pardon d'avoir tué mon frère. Même pas. Il est persuadé que Dieu est injuste et que le châtiment est trop lourd pour lui. Et le problème, c'est que le cœur de Caïn, il ne va pas changer. Et ça, on va le voir dans quoi, justement? Dans ce qu'il va transmettre à ses enfants. Caïn, il va avoir un fils qu'il appelle Enoch, qui aura un fils qu'il appelle Irad. Il sera arrière-grand-père de Mehouyaël, qui sera lui-même père de Métouchaël. et on arrive finalement à Lémec, 5 générations après Caïn. Et Lémec, un jour, il parle à ses femmes, et ça c'est dit dans vos Bibles, chapitre 4 de la Genèse, les versets 23 et 24. Lémec dit à ses femmes, « Ada et Tsila, écoutez ma voix !» Ça impose, hein ? Un homme autoritaire. « Femme de Lémec, écoutez ma parole !» Un macho. « J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. » Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il prend la faute de Caïn, il prend la punition de Caïn et il l'érige en sujet de gloire. Il a totalement tordu la parole de Dieu. Il est persuadé que si Caïn sera vengé 7 fois, c'est parce que Caïn est quelqu'un de super important. Et donc lui, vengé 77 fois, il est 11 fois plus important. Il a totalement tordu la volonté de Dieu derrière cette parole. La volonté de Dieu, c'était que Caïn se repente. Et d'ailleurs, les mecs, ils ne parlent même pas de Dieu. Ils parlent de la vengeance si on lui fait du mal. Mais il ne parle absolument pas de Dieu. Il l'inflige lui-même. Il a totalement oublié le Seigneur. Ça, c'est le fruit de la transmission de Caïn. Mais dans ce passage, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'au verset tout de suite après, on passe de Lémec qui se glorifie de faire le mal, de donner la mort, de blesser, de tuer, et tout de suite après, on a Adam connut encore sa femme et elle enfanta un fils. Et elle l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Et Seth eut aussi un fils qu'il appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Adam et Ève, ils ont fait des erreurs, ils ont mal commencé, ils ont tout planté au départ. Et pourtant, grâce à la patience de Dieu, eux, ils ont compris leurs erreurs, et ils ont changé leur manière d'élever leurs enfants. Et Seth, ils l'ont élevé autrement. Et Seth, ce qu'il apprend à ses enfants, c'est à invoquer le nom de l'Éternel. C'est à cause de cela que Dieu est patient. C'est pour nous laisser cette chance de transmettre. De la même manière que moi j'ai commencé sans transmettre à mes enfants certaines choses. Et que j'ai été repris pour ça et j'ai commencé à le faire. Alors transmettre, c'est bien. Et quand on parle de transmission, quand on parle de message, il y a un émetteur, il y a un message, il y a un récepteur, et puis il y a les modes de transmission. Ça c'est de la technique, hein. Vous prenez des cours de communication, vous prenez des cours de talkie-walkie, c'est... Ça marche toujours comme ça. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu des modes de transmission parce que c'est important. Ou si je me mets en face de Timothée et que je commence à lui parler en patois de Canaan, comme dit Michel, mon pauvre Timothée, il va me regarder. Il dit, papa, t'as fumé ? Je comprends rien et il va rien retenir. Alors, avant de se pencher sur les modes que nous, on utilise, je voudrais qu'on se penche sur les modes que Dieu utilise. Bah, le premier mode, c'est le mode direct. Adam, il lui a parlé en direct. Noé, il s'est adressé à lui en direct. Abraham aussi. Alors des fois, il ne parle pas face à face. Il utilise des rêves, comme Jacob. Avec, vous savez, la vision de l'échelle, avec les anges qui montent et qui descendent, qui était déterminante pour sa vie. Ou alors, il envoie un messager céleste aussi. Là, c'est également Jacob quand il combat avec un messager de Dieu. Ou Abraham quand il rencontre Melchisédek et qui reconnaît le personnage de Jésus. Alors ça fait rêver. Moi, quand j'étais petit, je me disais, ah, j'aimerais bien que Dieu me parle directement, comme ça je saurais qu'il existe, ce serait simple, je serais pas obligé, j'aurais pas à décider qui il faut croire, puisque les grands sont pas d'accord entre eux. Ah, mais le problème, les gens à qui Dieu s'adresse en direct, c'est des gens qui écoutent déjà Dieu et qui cherchent sa volonté. Leur cœur est bien disposé, on en revient toujours au cœur. Pourquoi ? Parce que si vous ne faites pas ce qui est déjà marqué dans votre Bible, ça sert à quoi de prier pour que Dieu vous parle ? Alors ça paraît ridicule dit comme ça, mais moi j'ai entendu quelqu'un me dire « Je ne sais pas si Dieu veut que je vienne aux réunions de l'Église. Fait, je ne sais pas, j'attends qu'il m'envoie un signe. » Mais pourquoi il t'enverrait un signe ? Il t'a déjà écrit une lettre. Si ça ne te suffit pas, pourquoi tu veux qu'il te parle en plus ? Tu ne l'écouteras pas plus si ce n'est pas ce que tu as envie de faire au fond de ton cœur. Mais ce n'est pas que nous. Si vous prenez le chapitre 20 d'Exode, les versets 18 à 21. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. C'est pas un tremblement de terre, hein, c'est pas un tsunami. C'est Dieu qui est en train de parler. À ce spectacle, le peuple tremblait et il se tenait dans l'éloignement. Et ils dirent à Moïse, « Non, parle-nous toi-même et nous nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous mourions. » Ils veulent pas que Dieu leur parle en direct, parce que leur cœur n'est pas prêt. Dieu les avait prévenus, il leur avait donné 3 jours pour se préparer. Il leur avait dit, « Purifiez-vous, soyez prêts, je vais vous parler dans 3 jours. » Pendant 3 jours, ils ont fait leur lessive, ils ont fait la bouffe, ils ont ri, etc. De temps en temps, ils ont prié un petit peu, mais ça n'a pas suffi. Leur cœur, il n'était pas prêt. Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas. C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, pour que vous ne péchiez pas, pour que vous viviez. Il veut votre bien. » Mais le peuple restait dans l'éloignement, alors que Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Voilà le résultat. Moïse entend les paroles de Dieu. Il va recevoir les 10 commandements. Le peuple, lui, il a entendu le tonnerre, la foudre, des tas de choses qui lui faisaient peur. Il n'a pas compris une seule parole de Dieu. Problème de cœur. Donc effectivement, Moïse, il va les entendre, les 10 commandements. Mais Dieu, il va les mettre par écrit, puisqu'il n'écoute pas. Il va leur mettre par écrit, afin qu'ils en gardent une trace, qu'ils soient sûrs que c'est vraiment ce que Dieu a dit à Moïse. Et vous remarquerez, ça c'est une initiative de Dieu. C'est même pas le peuple qui a dit, bon écoute, Dieu quand il nous parle, ça nous fait peur, qu'il nous le mette quelque part et on le lira plus tard. Non, ils ont dit, qui te parle à toi et toi tu nous parles à nous. Et on comprend que, pour quelle raison le Seigneur a mis lui-même les choses par écrit. C'est pour nous aujourd'hui. D'ailleurs, le peuple à l'époque, il sortait d'esclavage en Égypte. Est-ce qu'on sait combien était capable de lire ce qui était marqué sur les tables du commandement? Non, c'était pour les générations futures, pour être sûr, pour qu'il y ait une trace. Parce que ce que le peuple demande, c'est que Dieu parle, Moïse son prophète. Alors ça, c'est la transmission orale, les prophètes. On pourrait faire des enseignements entiers sur les prophètes. Mais c'est pas là-dessus que je voudrais m'attarder aujourd'hui. C'est vraiment un des modes de transmission qui est les plus durs. Et pour nous, parce qu'en fait, on en prend ce qu'on veut, c'est facile. Quand on n'a pas envie d'exécuter ce que dit le prophète, on dit « Oui, mais ça, c'est pas forcément Dieu, c'est de lui. » Et pour le prophète lui-même, ce qui est, il prend sur lui le rejet de la parole de Dieu. Soit simplement le sentiment, la tristesse de voir que les gens n'écoutent pas Dieu, soit des fois l'emprisonnement comme Jérémie, ou la mort comme Jean-Baptiste. C'est dur d'avoir à transmettre la parole de Dieu. Et puis, il y a quelque chose qui est encore plus terrible, parce que ces gens-là, ils n'ont pas failli dans leur mission. Mais nous, quand on nous demande d'aller témoigner, quand on nous demande d'aller évangéliser, bah des fois, on est bien obligé d'avouer que la peur des hommes... Elle surpasse l'envie de faire ce que Dieu nous demande. Et ça, c'est un constat qui est dur aussi. Donc l'oral, oui, c'est un mode de transmission, mais ce n'est pas celui qui marche le mieux quand on regarde dans notre Bible. Alors nous, en tant que chrétiens évangéliques, l'exemple pour nous, c'est quoi? C'est toujours Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Et oui, là aussi, pour la transmission, c'est l'exemple. Alors vous me direz, oui, mais Jésus, il a rien écrit. Il a parlé. C'est vrai, il a parlé. Mais il a fait un peu plus que parler. Ce qu'il a fait, Jésus, c'est qu'il a vécu avec les gens. Et les enseignements, il y en a une partie qui était à l'oral, mais les gens qui vivaient avec lui, ils ont vu que ce n'était pas juste des paroles, parce qu'ils les vivaient, ces choses-là. Et puis il y a des choses... carrément qu'il n'a pas dit, on voit simplement comment il agissait. Et aujourd'hui, on regarde beaucoup ça dans nos églises. Que faisait Jésus? Les jeunes, pendant un temps, on était plusieurs à avoir des bracelets « What would Jesus do ?» pour se rappeler, voilà, quand on a un choix à faire, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Mais on doit quand même se poser la question, c'est quoi l'efficacité de cette méthode? Ah oui, alors Jésus, 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 c'est notre modèle, est-ce que sa méthode était vraiment efficace? On peut se poser la question. Quand il est mort, même les apôtres, ils sont retournés à leurs anciennes occupations. Pierre, il est retourné pêcher. Des pêcheurs au départ, Jésus est crucifié, Pierre, hop, il retourne sur le bateau. Bah oui, il faut bien gagner sa vie. Hein. Et puis, parmi toutes les personnes qui ont suivi Jésus, il y avait des milliers de personnes. Il y avait des milliers de personnes qui ont été nourries à chaque fois, et des personnes qui préféraient ne pas aller chercher à manger, mais continuer à écouter Jésus. C'est des gens qui étaient fidèles, qui étaient touchés par ce que Jésus leur apportait. Ils sont où, tous ceux-là ? Parce que quand on lit dans les Actes, le nombre de personnes qui sont rassemblées pour prier, vivre ensemble, appliquer la parole, Actes 1:15, le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Ils sont passés où, ces milliers de personnes ? Alors oui, on peut se poser la question. Mais pourtant, vivre avec les gens, c'est une nécessité. Parce que c'est la seule manière qu'ils se rendent compte de l'authenticité du message qu'on délivre. Et qu'ils voient jusqu'où on est prêt à aller pour le vivre. Et puis, effectivement, il n'y a pas eu tant de personnes que ça qui sont restées complètement dans les enseignements de Jésus après. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que la poignée qui s'est complètement imprégnée de la personne de Jésus, eh bien, ils ont été assez nombreux pour apporter un bouleversement mondial. Je ne sais pas si vous avez vu ça aux infos, ça m'a marqué, il y a un professeur à l'université de New York, le professeur Skiena, qui a mis au point un logiciel. Et c'est un logiciel qui regarde dans l'histoire la vie d'une personne et sur combien de générations ce que cette personne a fait a des répercussions. Et il arrivait avec un top 3. Premier, Jésus. Deuxième, Napoléon. Cocorico, les Français. C'est les Américains qui le disent. Et numéro 3, le prophète Mahomet. Mais le premier, Jésus. C'est le personnage, historiquement, qui a eu le plus de répercussions sur des générations et des générations. Puisque ça dure encore aujourd'hui. Puisque la Bible est le livre le plus publié au monde. Donc, vivre avec les gens, c'est la référence. Encore une fois, oui, Jésus, c'est la référence. Parce que les graines qui ont semé ont porté des fruits extraordinaires. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on est en train de mettre en place dans cette église les groupes de maison. Les groupes de maison, c'est ça, c'est vivre ensemble. C'est pas juste apporter une parole le dimanche et la semaine, on vit chacun de notre côté. Les groupes de maison, c'est on se voit et on voit comment les gens appliquent les uns les autres. On peut pas se cacher quand on se voit en cours de semaine, quand on se voit au quotidien dans les problèmes concrets. On ne peut pas juste sortir des versets comme ça, avoir l'air super cultivé, puis faire ce qu'on veut finalement à côté. Et c'est aussi pour ça, c'est aussi ça qu'on fait dans nos familles. Parce que nos enfants, ils voient ce qu'on fait. Ils entendent ce qu'on dit, mais ils voient surtout ce qu'on fait. Et moi, Timothée, si je lui dis, Timothée, tu ne dois pas juger tes camarades. Oui, mais il ne fait que de m'embêter. Oui, mais c'est normal, son père, c'est un gros naze. Il va faire quoi ? Est-ce qu'il va ne pas juger comme je lui dis de faire ? Ou est-ce qu'il va faire les mêmes commentaires que moi ? Évidemment qu'il va faire la même chose que moi. Vous êtes tous conscients du danger du « fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Je reviens sur Jésus. Je vous disais, quand il y a un message, il y a un émetteur, un message, un mode de transmission et un récepteur. Alors dans le cas de Jésus, on sait que l'émetteur est bon. On sait que le message est bon. Le mode de transmission, je vous dis que c'est le meilleur. Il n'y a qu'un seul truc qui reste, c'est le récepteur. Et là, quand vous reprenez les évangiles, eh ben, on trouve de tout. Le message reçu, parfois, il est choquant. Mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Quoi ? Il veut qu'on devienne des cannibales ? Mais il n'est pas bien. Parfois, c'est considéré comme inapplicable à leur vie. Le jeune homme riche, il était d'accord avec tout ce que dit Jésus. Ok, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ? Qu'est-ce que je dois faire pour aller plus loin ? Je t'aime, tu sais que je t'aime. Et oui, il aimait vraiment Jésus. Mais Jésus lui a dit, ben voilà, va, il te manque une seule chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Ah non, ça c'est pas applicable à ma vie. On développe pas les raisons, mais on peut les imaginer. Aujourd'hui, ça arrive à quelqu'un d'entre vous qui a des responsabilités, je sais pas, imaginez, il y a un PDG aujourd'hui, on lui dit ça. Mais non, attendez, vous vous rendez compte, mes responsabilités vis-à-vis des actionnaires, les salariés, qu'est-ce qui va se passer ? Je peux pas, ma femme, elle est habituée à vivre comme ça, mes enfants, je pourrais plus leur payer leurs études. On peut trouver des tas de bonnes raisons. Au final, il a juste trouvé que ce que lui demandait Jésus, c'était pas applicable à sa vie. Et puis souvent, c'est pas compris. On revient toujours au cœur de ceux qui écoutent. Hein. au final, la volonté, c'est soit on se soumet à Dieu et on lui obéit, soit on trouve des raisons, mais il y a des notions dans le royaume de Dieu que l'intelligence ne suffit pas à expliquer. Ou alors il faut vraiment un cœur droit. Je repense à la phrase de Pierre, à un moment où, justement, quand Jésus a fait son apologie du cannibalisme, il y a plein de monde qui est parti totalement choqué. Et là, Jésus regarde les apôtres et leur fait « Alors, vous faites quoi ?» Et là, Pierre, ce qu'il dit, j'aime bien ces mots, « Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie. » Ça veut dire quoi ? C'est « Seigneur, j'ai tout compris, Seigneur, je suis à fond avec ce que tu dis, ils n'ont rien compris. » Vous savez comment il était, Pierre ? C'était quelqu'un qui était sûr de lui, il n'hésitait pas à se mettre en avant. Il était là quand les disciples se demandaient entre eux lequel était le mieux placé, lequel était le premier. Et là, ce coup-là, c'est « Seigneur, vers qui irions-nous ? » Quelque part, il s'est posé la question. Mince, on fait quoi ? On s'en va ? Ben non, on n'a personne d'autre que Jésus. Il n'a pas forcément compris ce qui se passait. Il a compris qu'il y avait des choses qui étaient choquantes. Il n'a pas forcément compris les mots de Jésus. Il n'a pas compris pourquoi Jésus disait ça. Mais juste, il sait qu'une seule chose, au fond de son cœur, c'est que cet homme-là, ben, il vient vraiment de Dieu. Alors vers qui irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie. On en revient toujours à une question de vie ou de mort, avec la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler en particulier de quelque chose. Il y a un risque dans les enseignements. Il y a un risque dans le monde évangélique. Particulièrement parmi les gens qui ont un cœur de disciple. On vous dit toujours, il faut être disciple. Disciple, oui, mais de qui ? Est-ce qu'on est disciple de Jésus ? Ou est-ce qu'on est disciple d'un homme de Dieu ? Parce que ça fait une énorme différence. Vous avez des hommes de Dieu qui vont faire des miracles, qui vont apporter la parole de manière parfaite, à 99% du temps. Vous prenez Moïse, il a fait combien d'erreurs dans sa vie ? On parle après le meurtre et les 40 ans dans le désert. En tant que leader, il a fait très peu d'erreurs. Mais les erreurs qu'il a faites, elles lui ont coûté cher. Et tout le problème, c'est de ne pas reproduire ces erreurs-là. Parce que nous, pour Moïse, on le sait, c'est marqué dans la Bible. C'est marqué dans la Bible que Dieu lui en a fait reproche. Mais notre pasteur, notre leader de jeunesse, tel homme de Dieu, tel prophète qu'on suit, qu'on écoute, comment est-ce qu'on sait à un instant T si Dieu approuve ou pas ce qu'il dit, ce qu'il fait ? Ce que Dieu nous demande, c'est pas de prendre exemple sur des hommes. Quand on vit à côté de grands serviteurs de Dieu, il y a un seul exemple qu'on a à prendre sur eux, c'est le fait de prendre Jésus comme modèle. Vous savez, c'est dit dans la Bible qu'on est des membres différents d'un même corps. On a des personnalités différentes, on est créé par Dieu pour des fonctions différentes, et on a des appels différents. Et si vous reproduisez ce que fait votre pasteur, ce que fait l'homme de Dieu que vous avez pris comme modèle, au mieux, vous ne pourrez que l'égaler. Dans la plupart des cas, vous ferez les choses moins bien que lui. J'ai essayé de bosser autant qu'André, hein. Je me suis épuisé. Ah, mais c'est une erreur que j'ai faite. Je me suis dit, les serviteurs de Dieu, ils sont tous à 99%, c'est Dieu qui renouvelle leur force. Oui, Dieu renouvelle leur force, ça c'est vrai, c'est dans la parole. Mais on n'a pas les mêmes forces au départ. On n'est pas monté avec les mêmes piles. Et André, c'est Duracell, vous savez, le petit lapin. J'espère qu'il réécoutera pas ce message. J'aime beaucoup le pasteur américain John Bevere. Et dans un de ses livres, il avait raconté une anecdote. Il avait travaillé sous les ordres d'un pasteur qu'il n'appréciait pas. Et un jour, il a découvert un péché dans la vie de cet homme. Et c'est un péché qui aurait suffi à le faire mettre à la porte. Et là, il s'est posé la question, et il a pensé à le dénoncer, et Dieu a parlé son cœur et lui a dit de se taire. Et par la suite, en fait, les agissements de ce pasteur ont été découverts. Il a effectivement été licencié de l'église où il travaillait. Mais quand John Bevere l'a revu, en fait, ce pasteur s'est confié à lui et il n'y avait aucune animosité, ni de la part de ce pasteur, qui avait complètement pourri la vie de John Bevere quand il était sous ses ordres, ni de la part de John Bevere. Ils étaient en paix, il n'y avait plus de rancœur. Et John Bevere s'est même rendu compte qu'il avait de la tristesse, même si c'était les conséquences du péché de cet homme, mais il était disponible pour l'aider et pour être en bénédiction pour lui. Parce qu'il ne s'était pas laissé guider par des mauvaises motivations. Parce qu'au final, c'était ça. Il s'agissait de régler une injustice. Mais son motif à lui, c'était de s'en profiter pour se débarrasser d'une autorité qu'il n'appréciait pas. Est-ce qu'il a fait la bonne chose ? Oui, parce que c'est Dieu qui lui a demandé. C'est ce que le Saint-Esprit l'a conduit à faire. Est-ce que c'est ce que vous devez faire ? Pas forcément. Je ne peux pas venir ici aujourd'hui devant vous et vous dire « Dieu vous demande de laisser perdurer les injustices. Il s'occupe de tout. » Et non, de temps en temps, on a notre part à faire. Il ne souhaite pas qu'on soit des lâches. Ce qu'il souhaite, c'est juste ne pas créer dans notre cœur plus de dommages que la situation n'en a déjà causé. Pour John Beveré, ça aurait été le cas. Il aurait été tordu et son ministère en aurait été affecté. Dieu s'en est effectivement occupé. Peut-être en utilisant quelqu'un d'autre qui avait les bonnes motivations au fond de son cœur. Ça, je crois que c'est un des versets préférés de Florence. Proverbe 4, 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » J'ai bon ? Alors, ok, ça c'est un pasteur. On n'en sait que ce qu'il a dit de lui-même. Donc on va retourner à la Bible. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5, on raconte l'histoire d'une jeune fille. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Naaman, c'est un général syrien. Donc la petite fille, elle est israélienne. Elle a été élevée en temps de guerre par des soldats ennemis. C'est dit avec beaucoup de sobriété dans la Bible. Très souvent, il faut compléter. Si vous connaissez des situations de guerre, ça ne s'est pas passé. Les soldats sont passés par là. Tiens, t'es toute seule, on t'emmène. Non. On peut imaginer que ses parents ont été tués ou qu'ils sont en esclavage à un autre endroit. Elle a été arrachée à sa famille et à son pays par une armée qui était commandée par Naaman. Elle est emmenée enfant comme prisonnière et elle se retrouve esclave dans la maison de cet homme. En ce moment, il y a un pays d'Afrique où il y a ça qui se passe. Vous voyez le remue-ménage que ça fait ? C'est ça qu'elle a vécu. Et donc, elle se retrouve, c'est quand même énorme, elle se retrouve dans la maison de l'homme qui est à l'origine de toutes les souffrances qui lui sont arrivées. Et un jour, elle apprend qu'il a atteint de la lèpre. Nous, bons chrétiens, on dit quoi ? Alléluia ! Merci Seigneur, t'as répondu à mes prières ! Il y a une justice ! Dieu est puissant ! Ha ! Ah, ça fait peur de tomber dans les mains du Dieu vivant, hein ? Non, elle dit pas ça du tout. Elle va se montrer parfaitement soumise à cet homme et elle va lui donner des conseils qui viennent de Dieu. Et ces conseils vont aboutir au fait qu'il va être guéri par le prophète Élisée. Est-ce qu'elle a eu raison ? Oui. Parce qu'un pardon comme ça, il n'y a que Dieu qui peut le donner. Ce n'est pas du syndrome de Stockholm. Hein. Elle se rappelle parfaitement d'où elle vient. Elle se rappelle parfaitement qu'elle est israélienne. Elle croit toujours dans son Dieu. Elle n'a pas adopté les dieux elle n'a pas adopté les dieux du peuple au milieu duquel elle vit. Elle se rappelle très bien qui elle est. Mais elle est capable de donner des conseils qui viennent de Dieu. Ce pardon, il vient de Dieu. Donc oui, elle a raison. Ok, ça c'est un exemple biblique. Donc on doit tous faire ça. C'est dans la Bible, c'est marqué. On doit être capable de faire la même chose qu'elle. Alors on imagine un pasteur aux États-Unis. On va l'appeler Martin L. King, par exemple. Il vit dans un pays horrible, dont les lois organise une discrimination, une distinction entre ces différents citoyens en fonction de leur couleur de peau. Je dis ça totalement... Là, c'est même pas des peuples différents, hein, c'est une même nation. C'est-à-dire qu'en fait, entre les oppresseurs et les opprimés, c'est le même peuple. D'ailleurs, vous avez même des chrétiens oppresseurs et des chrétiens opprimés. Donc, sans exprimer de haine, le pasteur Martin Luther King... Zut, j'ai dit son nom. Le pasteur Martin Luther King, s'il lit ça, normalement, il va dire, bon, bah, voilà, ils nous font du mal, ils nous ont soumis, mais on va les bénir, et puis Dieu va les bénir, et puis la situation va s'arranger par elle-même. Ça, c'est s'il choisit d'appliquer la même solution que la petite israélienne de 2 rois 5. Le problème, c'est qu'en faisant ça, à la même époque que Martin Luther King, il y a les Black Panthers, il y a des mouvements qui sont moins organisés, qui sont extrêmement violents. Et ce problème de discrimination, on peut imaginer, il y a déjà eu énormément de sang, il y a déjà eu énormément de drames. Mais s'il n'y avait pas eu des gens qui avaient été là pour gérer ça dans la paix, on peut imaginer que ça aurait été bien pire. On aurait pu aboutir à une deuxième guerre civile. Sans exprimer de haine, le pasteur Martin Luther King, il va lutter contre cet état de fait. Il va organiser un mouvement de désobéissance civile, mais il va rester soumis aux autorités de son pays. Quand la police va vouloir l'interpeller, il va se laisser interpeller. Quand on va le juger, il va se laisser juger. Et il va se laisser emprisonner. Il ne va jamais demander à ce qu'on vienne le libérer par la force. Il va continuer à appliquer la même méthode de désobéissance civile juste pour faire passer qu'il y a une injustice. Alors vous me direz, c'est pareil. Martin Luther King, oui, ok, aujourd'hui tout le monde dit que c'est un grand homme, etc. Mais on ne sait pas ce que Dieu en a pensé, finalement. Peut-être que Dieu pense que Martin Luther King aurait dû agir autrement. Ok. Martin Luther King n'est pas dans la Bible. Ok. Alors on va prendre le doyen de tous les profs de théologie. Paul. Paul, quel grand homme de Dieu. Quels enseignements. Qui a même été capable de reprendre Pierre. Acte 13, versets 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul. » Je la fais bien la voix de Dieu. « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on va appeler Paul un apôtre. Apôtre, en grec, ça veut dire envoyé. J'ai bon ? Apôtre, ça veut dire envoyé. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé simultanément par Dieu et par une église locale. Donc il devient apôtre en compagnie de Barnabas à Antioche, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc le premier voyage missionnaire arrive. Des gens dans tout le monde païen se convertissent. Et à la fin de ce premier voyage, ils se retrouvent à nouveau ensemble. Ils prennent un petit temps de pause. Et en acte 15, versets 36 à 40, je lis « Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir dans quel état ils sont. » Ok, c'est un cœur de pasteur. Allons voir les brebis pour voir dans quel état ils sont. Barnabas voulait aussi emmener Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans toute leur œuvre. Et ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Paul choisit Silas et il partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il est recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il est à nouveau envoyé. Il est à nouveau en tant qu'apôtre. Mais l'équipe qui a été formée par Dieu pour le premier voyage missionnaire, elle est séparée. Elle est séparée à cause de quoi ? Est-ce que elle est séparée à cause du manque de sérieux de Barnabas ou à cause de l'intransigeance de Paul ? On ne sait pas. Mais, comme on se nourrit des enseignements de Paul, on n'a pas beaucoup d'épîtres de Barnabas, c'est important quand même de se poser la question. Est-ce qu'on doit considérer que son comportement à cette occasion doit nous guider ? Alors j'ai un peu plus loin au chapitre suivant, acte 16, versets 6 à 10. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Et pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision, Paul après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, il se dispose à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas. Et en troisième lieu, une vision qui les change encore de route. Ils sont détournés de leur route pas moins de 3 fois. Alors quand il y a Dieu qui intervient à 3 reprises pour remettre sur le bon chemin, il y a un problème. Soit le projet de départ, ça a été fait sans consulter Dieu. La Bible ne le dit pas. Mais connaissant Paul, quand même, on a du mal à y croire. Soit, depuis le projet de départ, il y a eu un changement de circonstances. Peut-être le départ de Barnabas lié à l'intransigeance de Paul. Et du coup, ce changement de circonstances, il déclenche un plan B de la part du Seigneur. On ne peut pas avoir de certitude. La Bible ne le dit pas. Et de toute façon, on n'est pas là pour juger Paul. Mais il s'agit simplement de se rappeler que quand on s'inspire des agissements d'un serviteur, y compris un des plus grands, quelle que soit son onction, on peut toujours déboucher sur des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'inspirer de la vie des serviteurs de Dieu, hein. C'est toujours une façon d'apprendre et de comprendre comment vivre une relation avec Dieu. La Bible nous encourage, mais elle nous encourage à regarder les fruits, pas à regarder ce qu'ils font, à regarder les fruits qu'ils portent. Mais vous, quand vous êtes devant un choix, il n'y a que Dieu, sa parole et son Saint-Esprit qui peuvent vous guider. Chaque fois que vous regardez un homme, l'ennemi se joue de vous. Et il cherche à vous mettre dans la confusion. Parce que là, il peut vous utiliser. C'est à vous de porter vos propres fruits. Et des fruits qui viennent de Dieu. Pas des fruits qui viennent de votre pasteur. Pas des fruits qui viennent de tel écrivain ou de tel prophète que vous avez lu ou entendu. Au chapitre 17 de Jérémie, c'est un des versets que Michel aime à rappeler. Maudit est l'homme qui se confie dans l'homme. Béni est l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. C'est un peu, en fait, la manière de fonctionner du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il nous transmet des enseignements. Il nous rappelle la parole de Dieu. Mais il cherche jamais à se poser, lui, en exemple. Ce que le Saint-Esprit nous rappelle à chaque fois, c'est Jésus. Ce qu'a fait Jésus, ce qu'a dit Jésus. Et paradoxalement, en fait, c'est pas quand on cherche à être un modèle de chrétien qu'on attire les gens. Les gens qui sont des modèles, en fait, c'est plutôt agaçant. C'est quand on est vraiment honnête, qu'on cherche vraiment Dieu, qu'on a nos doutes, etc., qu'on devient réellement une lumière. Parce qu'on est un homme comme un autre, mais simplement celui qui nous évite les faux pas, c'est Dieu. Et c'est à partir de là que vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos amis, vis-à-vis de nos collègues, on peut leur donner vraiment soif de connaître Jésus. Alors je reviens au truc de départ, nos enfants. Avec Timothée, c'est pas toujours simple. Lui, quand je lui parle de Dieu, ça l'intéresse pas. Mais il adore lire. Et il adore les BD. Alors la dernière fois... Il est venu, il a fait un peu une escroquerie, il a embourbé sa mère et il a réussi à nous faire acheter une bande dessinée Robbie à Yves Casalis. Complice actif. Et en fait, c'est super, parce qu'avec cette BD, il y a plein de trucs qu'il ne comprend pas, donc ça nous donne l'occasion de discuter. Et là, c'est lui qui ouvre la conversation, c'est lui qui pose des questions. Avec Zoé, bah elle, ce qui l'intéresse, c'est chanter, c'est danser. Ok. Tous les soirs, on chante des chansons. Bon, toute la journée, nous chante Louis Adonai. Des fois, on est obligé de se boucher les oreilles. Et quand elle est à l'église, elle adore danser. Ok, c'est avec ça. Il faut toujours se rappeler le verset qui dit « Père, n'irritez pas vos enfants ». Oui, c'est important de transmettre la parole de Dieu. C'est important de la recevoir, c'est important de la transmettre. Mais c'est aussi important de ne pas faire du forcing. Parce que Dieu, lui, nous laisse toujours la liberté. Mais on transmet en étant nous intègres parce qu'il nous voit, et on transmet en saisissant les occasions, en saisissant les portes qui sont ouvertes avec eux. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est pas qu'aujourd'hui je fais ça parfaitement bien, c'est juste que Dieu m'a sensibilisé à l'importance de le faire. Et en fait, chaque jour, on est obligé de trouver des moyens différents. Et même Jésus, vous voyez que ça n'a pas été simple pour lui. Mais de toutes ses forces, tout le temps de son ministère, il a enseigné en permanence, il a montré ce qu'il vivait. Voilà, c'est juste ça, aujourd'hui, qu'il revient à nous d'essayer de faire. Que le Seigneur vous bénisse.